L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. La période qui est devant nous, elle est extrêmement anxiogène. On a peur, on ne sait pas par quelle boule prendre. On voit bien que notre société est en train de s'effondrer, mais dès qu'on parle d'effondrement, les gens ont tendance à relever des boucliers. Et je me suis posé cette question de savoir, est-ce qu'on a déjà eu d'abord des sociétés qui se sont effondrées? Comment elles se sont effondrées? Qu'est-ce que ça a donné par la suite? Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Desjeux. Dominique Desjeux, c'est un anthropologue qui est professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne Sciences Humaines, qui est chercheur sur contrat international, qui est auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle « Du marché des dieux » et « Comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme » qui est sorti aux presses universitaires de France. Et avec Dominique, on parle de nombreux sujets. On parle du pouvoir. On parle du pouvoir via l'énergie, on parle des crises et de ce qu'ont généré les crises climatiques, puisque c'est déjà arrivé par le passé. On parle évidemment de la situation actuelle, de la transformation de l'agriculture, des croyances qui naissent, de l'impact évidemment de ces crises, du lien entre la religion et l'innovation. Bref, on parle de très nombreux sujets sur une heure qui est vraiment dense, vous allez voir. C'est une discussion vraiment intéressante que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien aujourd'hui?
Très très bien, oui.
Bon, c'est l'été qui commence, c'est parfait. On est dans une société où on voit de plus en plus des problèmes s'accumuler, en particulier je pense à la crise du Covid et puis maintenant l'inflation, la guerre en Ukraine. On nous parle beaucoup d'écologie de plus en plus, et puis on peut remarquer quand même qu'il a beaucoup moins plu et qu'il y a des problèmes de sécheresse en France et un peu partout en Europe, entre autres. On voit bien qu'en fait, notre système, il est un peu en train de s'effondrer, et ça angoisse beaucoup de monde. Et là, je vais demander à l'anthropologue, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire humaine qu'une société comme ça s'effondre? Et est-ce que c'est... Il faut le prendre avec beaucoup de hauteur et se dire c'est une opportunité, ou est-ce que dans l'histoire on n'a pas vraiment rencontré ça et effectivement on peut être inquiet?
Ben merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement complexe. Et en général, quand on répond merci beaucoup pour la question, c'est pour prendre le temps de trouver comment y répondre. c'est un vieux truc de rhétorique en politique. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est pour moi de rappeler qu'il y a déjà eu des grandes crises ou des formes d'effondrement dans l'histoire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on sait que ce n'est pas la première fois, ça veut dire que tout ne s'est pas arrêté. Et donc, on a trouvé des solutions pour trouver de nouvelles bifurcations dans l'histoire. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et je crois que là, un des effondrements les plus célèbres s'est passé à peu près au XIIe siècle avant notre ère. Il y en a eu d'autres après qu'on a oubliés, comme par exemple la Grande Peste, je crois que c'est au XVe siècle, vers 1430, 1445, je crois. Mais ce grand effondrement du XIIe siècle, il a fait l'objet du reste de trois documentaires très intéressants sur Arte qui sont en cours et qu'on peut tout à fait les regarder pour comprendre la cause de cet effondrement.
Il s'appelle comment les documentaires?
Alors, j'ai oublié le nom du documentaire, mais c'est sur les crises climatiques ou l'importance des crises climatiques dans les grands changements historiques. D'accord. Et pour ma part, j'ai eu à faire une recherche pour comprendre l'origine du monothéisme, d'abord juif puis chrétien. Et à travers cette recherche, je suis tombé sur un moment historique, qui est donc ce moment où l'Empire égyptien, l'Empire hittite qui est en Anatolie, donc en Turquie d'aujourd'hui, et surtout l'Empire mycénien, se sont effondrés. Et pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi. Et il y a un historien anglais qui s'appelle Klein, C-L-I-N-E, qui est assez intéressant. On le voit tout à fait dans le documentaire du reste de d'Arte. Moi, je ne l'avais jamais vu. Et cet historien va expliquer qu'en fait, au XIIe siècle, il y a eu une immense sécheresse. Et cette sécheresse a notamment touché le Nil. Et le Nil, c'était le grenier à riz de l'Égypte et même d'une partie de la Méditerranée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, du fait de cette sécheresse, la plupart des sociétés, et à l'époque, elles n'étaient pas très nombreuses, mais les grandes sociétés comme l'Égypte, n'ont plus de quoi s'alimenter. Et donc, il a fallu changer de système. Et ça a touché notamment l'Empire mycénien, donc c'est autour de la mer Égée, autour de la Grèce, on va dire, et de Chypre, qui, lui, contrôlait le commerce du cuivre. Et le cuivre, c'était le métal stratégique pour faire la guerre, pour faire le commerce, pour s'alimenter, pour faire tous les outils dont on avait besoin. Et donc, c'était un commerce central, comme aujourd'hui, celui qui contrôle le charbon ou qui contrôle le cuivre encore pour l'électricité, ben, il contrôle une partie de l'économie. Et comme il s'est effondré, c'est un groupe de forgerons au sud de la mer Morte, donc au sud d'Israël aujourd'hui, entre la mer Morte et la mer Rouge, il y a des montagnes, et dans ces montagnes, il y a du cuivre. Et ce groupe de forgerons a pris le pouvoir grâce à leur capacité à maîtriser le cuivre, et c'est eux qui se sont mis à contrôler le commerce du cuivre en Méditerranée. Et ils avaient un dieu qui s'appelait Yahvé, et le roi David, c'est à peu près au 10e, 11e siècle, qui était en train de créer son royaume.
Avant Jésus-Christ, hein, je précise.
Absolument, mais... tu as raison de rappeler ça, avant Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près 10e, 11e siècle avant Jésus-Christ. Et David s'est dit, mais voilà un roi puissant, un dieu puissant, puisque le groupe des Kénites est très puissant, et donc ça veut dire qu'il a un dieu puissant. Moi, je vais adopter ce dieu-là. Et à cette époque-là, tout le monde était polythéiste. Et dans le polythéisme, l'habitude était de... récupérer tous les dieux qui étaient puissants et qui pouvaient être efficaces. Donc voilà un effet à la fois négatif évidemment pour l'Égypte, pour les Hittites, mais qui a été positif notamment pour les Juifs au début d'Israël, on va dire, et aussi pour d'autres populations qui se sont libérées du joug de la domination égyptienne ou hittite. Et la conclusion provisoire, c'est que quand il y a une crise, évidemment, il y a des souffrances, mais il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Donc, ce n'est pas une réponse simple en disant « la crise, tout va s'effondrer ». C'est quand il y a une crise, ça rebat les cartes du jeu. C'est ça qui est important à retenir.
Et en particulier, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, en parlant du cuivre, c'est que les matières premières sont souvent un outil, on va dire, de pouvoir et que ceux qui les possèdent, possède le pouvoir également. Il y a vraiment ça, et quand on regarde, si on reprojette avec aujourd'hui, il y a évidemment les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Il n'y en a pas vraiment beaucoup en Europe. Et aussi, c'est ce qui explique pourquoi, quelque part, Poutine s'est donné la permission d'aller faire la guerre en étant très sûr que le gaz, et l'eau d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'eau aussi en Russie, pouvait lui donner une sorte de position stratégique qui lui permettait de faire pression sur les autres sans que finalement l'Europe ou les États-Unis réagissent. Bon, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu. Mais il y a aussi cette idée, et demain on va se poser la question de l'énergie demain, c'est sans doute, il y a une partie de nucléaire, il y a aussi une partie d'énergie solaire, énergie des mers, et qui va maîtriser ces flux-là, les technologies qui sont derrière en particulier, pour savoir qui va avoir le pouvoir demain. Il y a vraiment cette idée derrière aussi, quelque part, non?
Pour moi, ce que tu dis, c'est absolument central. Alors, j'associe deux choses. J'associe à la fois le fait de contrôler une matière première ou une forme d'énergie ou une technologie et le fait que cette technologie ou cette matière première soit stratégique. Et donc que son contrôle corresponde à une incertitude pour ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'une matière première stratégique, mais qui est dispersée partout, où tout le monde peut l'avoir, ne crée pas de rapport de pouvoir. Par contre, dès qu'il y a rareté, il y a incertitude, et là, il y a des relations de pouvoir pour contrôler cette zone d'incertitude. Alors, si on reprend l'énergie, là encore, en termes d'histoire, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. de façon un peu rapide, mais on comprend bien que c'est autour du XVIIIe siècle que tout a changé. Et pourquoi ? Avant le XVIIIe siècle, tout ce qui était énergie, c'était ce qu'on appelle des bioénergies. C'est-à-dire fondé sur l'homme, la femme, les animaux comme le cheval, le chameau, etc. Et aussi, bien évidemment, l'eau, le feu et le vent. Et évidemment, le soleil aussi pour la photosynthèse. Donc, toutes ces bioénergies étaient à peu près équivalentes dans l'ensemble du monde. Et qu'est-ce qui faisait qu'un État devenait plus puissant ? Ben, c'était lié principalement à son armée. À son armée, aux technologies militaires et aux capacités stratégiques qui faisaient que telle capacité de technologie militaire était plus puissante qu'une autre. Il n'y a qu'à penser à Azincourt. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est pendant la guerre de Cent Ans, je crois que c'est vers le XVe siècle. Et à l'époque, les chevaliers français étaient à cheval. En face, ils avaient les archers qui étaient à pied. Et pour eux, ils étaient un peu méprisables. Et ils ont complètement sous-estimé que les arcs et les flèches allaient les décimer. Ou bien, quand on regarde les grandes invasions mongoles, une des grandes forces des Mongols, ils étaient organisés par des petits groupes militaires de 10 cavaliers. Et du reste, s'il y en avait un ou deux qui s'enfuyaient, c'était l'ensemble des 10, enfin ceux qui restaient qui étaient tués. Donc, ça maintenait la cohésion et ça évitait qu'il y en ait trop qui s'en aillent. Et leur force était de pouvoir tirer à l'arc à cheval, alors que d'autres ne savaient pas le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle ? On a complètement changé de régime énergétique. Pour moi, la grande, grande différence au XVIIIe siècle, c'est vers 1760, 1750, avant ou après, c'est que les Anglais, en Angleterre, ils avaient un problème très spécial qui était qu'ils avaient une courbe démographique beaucoup plus forte que la capacité qu'ils avaient de nourrir tous les gens qui allaient naître. Ils n'avaient pas assez de terre. Et donc, quelque part, ils se sont retrouvés avec un déficit de terre, soit pour avoir assez de moutons, lequel donne la laine, lequel donne les vêtements, soit ils n'avaient pas assez de bois pour faire le feu qui permettait une petite métallurgie ou encore d'autres choses, ou pas assez de bois pour construire les maisons. Et du fait de cette crise, alors qu'au même moment, c'est intéressant à retenir en termes d'histoire, la Chine était à peu près équivalente en termes économiques. La Chine n'avait aucun retard par rapport à l'Europe et même leur système de tissage était quasiment les mêmes, à part un petit élément technique, comme le raconte l'historien américain Pomerantz. Mais la Chine n'avait pas ce problème démographique parce qu'elle avait les grands fleuves et ces grands fleuves suffisaient encore comme réserve de riz si on était au sud ou de réserve de blé si on était au nord. On en produisait assez, ça veut dire. Et donc l'Angleterre était beaucoup plus menacée que la Chine. De ce fait, ils ont développé deux choses. Un, la colonisation américaine, et après ça canadienne, et après ça indienne. Et grâce à la colonisation américaine, ils ont eu du coton, et donc ils ont eu de quoi habiller tout le monde. Et puis, ils ont eu la deuxième idée, ça a été d'exploiter le charbon. Et grâce au charbon, ils ont développé l'industrie et là, on arrive à ce qu'on appelle classiquement la révolution industrielle. Mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de la révolution industrielle, c'est qu'elle a été due à une révolution énergétique, laquelle a des effets jusqu'à aujourd'hui et qui est à la source de tous nos problèmes. Donc à la fois, la révolution énergétique grâce au charbon, puis au pétrole ensuite et à l'électricité, à la fois a résolu un nombre de problèmes très importants, donc ça a été positif, en termes alimentaires, en termes industriels, en termes de déplacement, ça a permis tout ce qu'on a connu après, en termes militaires évidemment, puisque ça a permis les canons, donc c'était ambivalent. Ça a été aussi une source d'exploitation quand on regarde les ouvriers dans les mines, etc. Mais ça a aussi permis donc une croissance et un développement d'une partie des pays, notamment occidentaux. Mais ça aussi produit ce que qu'on connaît aujourd'hui, le réchauffement climatique, qui aurait démarré à peu près quand on regarde la courbe de CO2, c'est vers 1850, c'est-à-dire au moment où la société industrielle se développe à plein et donc où on utilise énormément le charbon et donc on produit énormément de CO2. La seule chose qu'il faudrait absolument comprendre aujourd'hui, c'est, et là on va revenir aussi à l'histoire, dans les années 2000, qu'est-ce qui fait il y a un réchauffement climatique et quelle est la part, quelque part, de l'homme et quelle est la part des grands mouvements aussi de réchauffement ou de refroidissement climatique. Par exemple, entre le premier siècle avant notre ère jusqu'au deuxième siècle avant notre ère, il y a eu ce qu'on a appelé l'optimum climatique romain. Ça veut dire que la Méditerranée a eu 2 degrés de plus, et ce qui a été très favorable en termes agricoles, et les Romains regorgeaient de blé, qui était l'aliment alimentaire stratégique pour contrôler l'ensemble de la Méditerranée. Et quand cet optimum a disparu, on a commencé à voir le déclin de l'Empire romain. C'est la thèse, par exemple, d'un historien américain, Kyle Harper, qui est très intéressante et qui va nous montrer comment on peut faire l'histoire à partir des crises climatiques. C'est extrêmement d'actualité. Quand on voit qu'aujourd'hui, on est effectivement soumis à une crise climatique dont le ressort principal, c'est l'usage des énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bataille très importante pour savoir comment faire pour à la fois continuer à avoir de l'énergie pour fonctionner dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de vie quotidienne sans énergie. Quand j'entends dire, par exemple, qu'une bonne énergie est une énergie qui n'a pas été dépensée, je ne comprends même pas comment on puisse dire ça, puisque l'énergie, c'est vital. C'est comme si on voulait plus d'hydrogène ou plus d'oxygène. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est la source et la nature de l'énergie.
Pour revenir, en fait, toi, tu as analysé le développement des religions monothéistes. Donc, exactement. Je serais curieux aussi de comprendre comment elles sont nées à ce moment-là. Est-ce que c'est le comportement que les gens ont adopté, alors je ne sais pas si tu as la réponse, cela dit, dans cet empire mycénien qui s'effondrait, c'est-à-dire que d'un coup, ils sont devenus plus frugaux également. Je ne sais pas s'il y a des papiers
alors,
là-dessus.
Je ne pense pas que les gens ont été plus frugaux de fait et qu'ils n'avaient plus à bouffer. On a des traces. Si par exemple, on prend dans la Bible, il faut en prendre et en laisser en termes d'histoire. Je ne parle pas du tout de théologie, mais en termes d'histoire, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont historiquement avérées, d'autres qui sont plutôt qui relèvent de la mythologie, comme la mythologie grecque ou romaine. Donc, c'est normal aussi, hein, mais ce n'est pas l'histoire. Il y a quand même une histoire intéressante, c'est celle de Joseph, qui avait été vendu par ses frères, d'après la Bible. Donc, c'était une des 12 tribus d'Israël. Et puis, à un moment donné, Joseph est devenu le grand échanson, celui qui organisait tous les greniers royaux en Égypte. Et il avait fait un rêve, du reste, qu'il y aurait 7 années de vaches grasses, puis 7 années de vaches maigres. Et ce rêve est très symbolique de ce qui se passait régulièrement, du reste, en Égypte, mais qui était encore plus fort là, avec la sécheresse du XIIe siècle, c'est que on aurait de la sécheresse. Cette sécheresse a commencé par frapper l'Israël ou la Palestine de l'époque, ou le pays de Canaan. La Palestine, ça veut dire pays des Philistins, hein, et les Philistins étaient ceux qui habitaient le pays à l'époque. Et donc, les frères de Joseph sont venus en Égypte parce que, du fait de ce rêve, le pharaon avait fait des grandes réserves de blé. En réalité, historiquement, tout le monde le sait, dès qu'on est un pays à céréales, avec un pouvoir central, on fait des réserves de blé, on fait des stocks, en prévision des périodes de sécheresse. Et eux, ils sont venus, et ils ont, comme ça, eu du blé. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient plus de blé en Palestine. Et là, ils étaient frugaux, je veux dire. Et c'est là qu'ils posaient des problèmes. Et c'est là qu'il y a eu un conflit, du reste, entre le Xe siècle avant notre ère et le Ve siècle. C'est que pendant ces périodes-là, il y a eu des problèmes climatiques, il y en avait régulièrement, pas aussi fort qu'au XIIe siècle avant notre ère, il y en a quand même pas mal. Et les Juifs qui étaient là disaient, depuis que vous nous avez imposé votre nouveau Dieu, donc ils parlaient à leur chef, ça va pas du tout, il y a des guerres, les récoltes sont mauvaises. Nous, avant, on avait une reine du ciel qui était très efficace pour les récoltes. Mmh. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que tout le monde était polythéiste pour des raisons politiques. Le roi David ou le roi Jéroboam qui était au nord, peu importe, c'est des détails d'histoire importants par ailleurs, mais pas pour ce qu'on dit là, voulait imposer un dieu plus fort et un dieu unique. Et c'est l'exil de Babylone au moment où les Babyloniens ont envahi Jérusalem, c'est ça une partie de la réponse, qui fait que 200 000 Juifs ont été déportés à Babylone. Là, ils ont rencontré un autre type de religion beaucoup plus proche du monothéisme, qu'on appellera plus tard le zoroastrisme ou le mazdanisme. Donc là, ils se sont confrontés à une nouvelle divinité. Ça correspondait en partie à ce qu'ils attendaient avec Yahvé. Et là, ils sont devenus monothéistes. Et on voit très bien comment, à partir du 4e et 5e siècle avant notre ère, les Juifs sont devenus monothéistes. Jusqu'au 1er siècle de notre ère. Je vais essayer de la faire courte là, parce que là, les Juifs occupaient toute la Méditerranée, ils représentaient à peu près 8% de la population romaine. Les chiffres peuvent varier, c'est des chiffres anciens, il y a toujours des discussions, mais c'est une population extrêmement importante. Et déjà à l'époque, l'élite romaine était intéressée par le monothéisme. À la fois, la plupart des Romains trouvaient extrêmement impie cette espèce de monothéisme qui venait d'Orient, comme ils disaient. C'était même des espèces, pour eux, c'était des superstitions, comme on dit en latin, des superstitions donc. Le monothéisme était une grande superstition, mais certains étaient intéressés par la monothéisme qu'ils trouvaient plus sophistiqué, plus intéressant, plus intellectuel, toujours compliqué à dire, que le polythéisme des païens entre guillemets, bien sûr. Et donc, quelque part, l'hypothèse que moi je fais, il n'y aura jamais de preuve, hein, c'est que c'est le monothéisme juif qui aurait dû se développer. Et là, il y a eu une crise. Et la crise est très importante. Alors, pourquoi je dis c'est le monothéisme juif qui aurait dû se développer, c'est que Jésus lui-même, qui était juif, ne cherchait pas tant à créer une religion pendant sa vie, il cherchait à purifier le judaïsme, comme beaucoup de gens cherchent à purifier les religions. Et il a eu des gens qui l'ont suivi, il y a eu son frère Jacques, il y a eu Paul, et puis il y a eu Pierre, et Paul a été celui qui a le plus développé la pensée de Jésus, mais c'était pas encore du christianisme. C'était une forme de judaïsme prosélyte qui existait déjà depuis 200 ou 300 ans. Et quand, en 70, il y a eu l'attaque des Romains contre Israël à cause de la révolte des Zélotes, ces trois personnages-là étaient morts, donc Jacques, Pierre et Paul étaient morts, et le christianisme n'aurait jamais dû réussir. Et puis le temple disparaît, il est détruit par les Romains, et dans le temple, il y avait la caste des prêtres. Et en faisant disparaître le temple et la caste des prêtres, on détruit complètement tout le système de fonctionnement du judaïsme. Et là, entre les Juifs, il y a eu un choix à faire. Donc c'est une crise énorme, hein, c'est une guerre, correspondant, on va dire, à l'Ukraine ou à toutes les guerres qu'on a connues, qui sont des crises extrêmement importantes, puisqu'on détruit le cœur du système. Et là, certains Juifs ont dit, on va se recentrer sur notre cœur de métier, donc on va se recentrer sur la Torah, sur ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, sur les règles, qui sont devenues 613 règles après, et sur les rites de purification. Et d'autres ont dit, ah mais non, pas du tout, si on fait ça, on va mourir. Il faut se développer, au contraire, il faut utiliser tout notre système qu'on a autour de la Méditerranée, c'est quasiment des plateformes hein, de diffusion que sont les synagogues. Et au sein des synagogues, entre le 1er et le 2e siècle, il y a eu des débats entre deux tendances juives, je simplifie évidemment tout ça, et ça n'a jamais été pensé comme ça en tant que tel. L'une et les plus traditionnalistes centrés sur la Torah ont éjecté des synagogues les juifs qui voulaient être prosélytes, parce qu'ils voulaient en même temps supprimer la cacheroute, les règles alimentaires, ils voulaient supprimer la circoncision, ils voulaient simplifier les rites, et en plus ils acceptaient la résurrection des morts, ce qui était vrai pour une fraction des juifs depuis à peu près 300 ans, depuis les Maccabées, ce qui permettait d'avoir une religion beaucoup plus acceptable pour les Grecs et les Romains. Donc ils se sont disputés, ils ont éjecté les modernistes, tout ça entre guillemets, hein, des synagogues, ils ont créé à leur tour leur propre lieu de culte et c'est devenu les églises. Et c'est à partir de cette crise que le christianisme a commencé à émerger entre la fin du 1er siècle et le 2e siècle. Et il a mis encore 2 ou 3 siècles à se développer et c'est une quatrième crise. Hein. La première, c'est la crise climatique du cuivre, la deuxième, c'est la crise de l'exil, la troisième, c'est la crise du temple et la quatrième, c'est une crise monétaire au 4e siècle. Constantin était devenu empereur de Rome, mais la monnaie n'avait plus que 2% de métal, donc elle n'avait plus aucune valeur. Il ne pouvait plus payer les armées romaines qui étaient sur la frontière entre le Rhône, le Danube et puis le Tigre et l'Euphrate. Et or, il a trouvé un truc. Tout ça, c'est raconté par moi, hein, c'est plus subtil que ça dans la réalité, mais ça a été de dire, bon, je vais me convertir au christianisme, comme ça, c'est dit par un historien extraordinaire dont le nom m'échappe tout le temps, ça m'énerve beaucoup, mais c'est comme ça, j'arrive pas à retenir son nom. C'est le neveu,
je peux pas t'aider.
C'est le neveu d'un anthropologue très connu. Enfin bon, c'est comme ça, il y a des trous de mémoire que je ne peux pas contrôler. Et donc, il raconte ça très bien et il dit, il va se convertir au christianisme. À ce moment-là, le paganisme n'est plus la religion officielle. Et donc, je vais pouvoir piller l'or des temples des païens et je vais revaloriser ma monnaie. Et de fait, Constantin a pris tout l'or des idoles, ça c'est les chrétiens qui disent ça, mais des sculptures ou les richesses en or des temples, il l'a transformé en monnaie, il a fondu l'or, il a fondé, et en fondant là, il a créé une nouvelle monnaie, le solenum, donc c'est devenu le sol. Il a revalorisé sa monnaie et il a reconquis sa puissance. Donc c'est grâce à sa conversion qu'il a pu piller les temples païens. Et donc il s'est allié aux chrétiens. Lesquels chrétiens ont commencé à investir l'administration romaine, sont devenus une quasi-administration de substitution à l'Empire romain. Et à partir d'Augustin, vers la fin du IVe siècle à peu près, on parle même plus grec. Augustin ne parlait que latin. Et il va y avoir un empire romain latin et un empire romain qui partira ensuite vers Byzance et Constantinople, qui sera l'empire oriental. Et donc, à chaque